les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Diffusé entre 1998 et 2004 sur la sulfureuse chaîne câblée américaine HBO, Sex and the City a révolutionné la vision de la femme. La fiction suit les vies surtout amoureuses de quatre New-Yorkaises qui appartiennent à l'élite snob de Manhattan. Sex and the City est adapté du livre de Candace Bushnell, une compilation d'articles écrits par l'auteur pour le New York Observer. Elle a suivi à la lettre le conseil de son rédacteur en chef qui lui a dit qu'on écrivait mieux sur ce qu'on connaissait. Candace est une célibataire vivante à Manhattan. Elle était plutôt bien placé pour écrire sur les relations hommes-femmes à Big Apple. Candace collaborait aussi à Vogue. Depuis, elle a remporté d'autres succès avec 4 blondes, un ouvrage rassemblant 4 nouvelles sur le même thème que Sex and the City, et Trading Up, un roman sur le parcours d'un mannequin grisé par le succès, mais qui se heurte à un monde de célébrité, de sexe et de dépravation qui la poussera à s'interroger sur l'amour, l'amitié et ses rêves. Darren Star est le créateur du programme. Il s'était auparavant illustré sur des soaps moins brillants comme Beverly Hills, Melrose Place ou Central Park West. Sex and the City va véritablement le relancer. Son parcours précédent ne manque pas d'étonner les critiques qui jettent un œil sur son passé. La chaîne câblée HBO lui permet beaucoup plus que les networks pour lesquels il avait travaillé auparavant. Retour donc sur cette série féminine et peut-être féministe, nous le verrons plus tard. Mais d'abord, commençons par le début de ce qui semble être un conte de fées, Sarah.
Et oui, parce que Sex and the City commence par « Il était une fois ». C'est la formule sacro-sainte du conte de fées. Et une voix off après se lance dans l'histoire d'une journaliste anglaise qui débarque à New York, qui rencontre un homme charmant dans une galerie d'art. Il passe 2 semaines idylliques, il visite une maison et tout a l'air de bien se passer, mais elle ne le revoit jamais et elle n'entend plus jamais parler de lui. Et là-dessus, Carrie nous dit « Eh ben oui, bienvenue à Manhattan, réveillez-vous, les contes de fées, c'est fini. Ici, vous êtes à New York et New York, ça n'est plus du tout ça. » Et en fait, c'est également comme ça que commence le livre de Candace Bushnell. Donc là, on peut dire que le premier épisode reprend quasiment mot pour mot ce qui est dit dans le livre. À l'écran, évidemment, on voit des choses. On voit par exemple Miranda, Charlotte, Skipper, Samantha, Stanford. Et en fait, on les connaît parce que leur nom défile en même temps qu'on voit leur image. Et ils nous donnent leur point de vue sur les relations femmes à New York. Et évidemment, on rencontre aussi Carrie Bradshaw. Ce qui fait qu'en quelques minutes, on a à la fois le thème, les relations femmes, et le ton rapide, journalistique et direct de la série qui va suivre. Alors, la série est surtout portée par 4 héroïnes qui sont réparties en fait sur une ligne qui va de la femme traditionnelle en attente du prince charmant, blanc, religieux et riche, à la femme curieuse, recherchant le plaisir, sans soucier vraiment des années qui passent. Et vous aurez compris que d'un côté, c'est Charlotte York et que de l'autre côté, c'est Samantha Jones. Entre les deux, on trouve Carrie, qui est beaucoup moins naïve et moins prude que Charlotte, mais qui cherche quand même le prince charmant. Et Miranda, qui elle est une femme indépendante, qui récolte beaucoup de succès dans sa vie personnelle et qui trouve que ce qui ne va pas du tout dans le couple, c'est surtout le macho qui est à côté d'elle. Elle n'a cependant pas totalement renoncé à l'amour et elle continue à le chercher. Alors ces 4 femmes de ce point de départ vont évoluer tout au long des 6 saisons de Sex and the City. Charlotte par exemple va se marier, va rencontrer le parfait homme dont elle avait toujours rêvé, mais c'est un véritable fiasco. Et oui, l'homme idéal n'existe pas, c'est ce qu'elle doit apprendre au long des saisons.
En fait, il était presque parfait, sauf au lit.
Voilà. Ce qui est quand même un grand point, apparemment pour elle en tout cas. Elle doit donc revoir sa définition de l'homme idéal. Et finalement, elle tombe avec un gars qui est peut-être bien son homme idéal, mais qui n'en a pas l'air au premier coup d'œil, donc il faut qu'elle réfléchisse là-dessus. Samantha, c'est pareil. Samantha est un peu prise à son propre jeu parfois, parce qu'à force de coucher avec tout et n'importe qui, on finit par tomber amoureux et on finit par tomber sur un gars qui vous considère comme un objet sexuel, et donc ça fait mal. Elle doit, elle, apprendre que finalement, le sexe n'est peut-être pas tout, et que pour nouer des relations avec les gens, il faut parfois passer au-delà. D'ailleurs, c'est elle qui a le plus de problèmes de libido sur la dernière saison, vu qu'elle doit se remettre de son traitement du cancer et qu'elle a un petit passage à vide. Carrie, elle va devoir batailler très ferme pour avoir l'homme qu'elle aime. Et elle va apprendre qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle est loin d'être la petite princesse du prince charmant, puisqu'elle va quand même casser un couple, casser plusieurs gars, dont Aiden. Et elle va se rendre compte que parfois, elle est aussi quelqu'un de très égocentrique. Donc il faut qu'elle se remette en question. Et Miranda, elle doit apprendre à lâcher du lest, elle doit apprendre qu'elle a elle aussi besoin des gens et qu'elle peut être capable d'aimer, ce qu'elle va apprendre au long des épisodes. Sex and the City, c'est aussi l'histoire de Manhattan et de la population branchée qui habite à Manhattan, puisque finalement on circule dans le milieu de la mode, des médias, du luxe, on nous présente des gens qui sont riches. leur restaurant, leurs chaussures, leurs fringues, leur appartement, l'art qu'ils achètent, etc. D'ailleurs, le site officiel de HBO a toutes les pages débordent de mode par-ci, de mode par-là. Vous pouvez aller voir les habits fétiches de vos héroïnes, les chaussures évidemment fétiches de vos héroïnes, etc. Et puis, ce sont des gens riches parce que vous, est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui ont eu un reportage sur leur mariage dans le Times, moi pas, ou des gens dont l'appartement a été pris en photo pour un magazine de déco, j'en connais pas non plus. Donc, on n'est pas nécessairement confronté à des gens qu'on peut voir tous les jours, vous et moi. Les éditeurs, peut-être qu'il y en a qui connaissent des gens comme ça. Et donc, finalement, c'est aussi un milieu qui semble pas franchement évoluer tout au long de la série. Par exemple, les attentats du World Trade Center n'ont rien à voir dans Sex and the City. On n'en parle pas. On fait juste une dédicace d'un épisode à la fin de la saison de l'année 2001. Et puis Sex and the City, c'est aussi l'histoire de son auteur, puisque le parcours de Carrie ressemble très très fort au parcours de Candace. À la première saison, on fait la promotion de sa chronique sur un bus, donc elle est déjà assez bien connue, ce qui était le cas d'ailleurs de Candace Bushnell. Et puis, d'un journal, elle va écrire pour deux, puisqu'elle va collaborer avec Le Vox, ce qui est aussi le cas de Candace Bushnell. Elle va être invitée à Los Angeles pour une adaptation ciné de sa série. Elle va avoir une adaptation roman de sa série. Elle va aller à Paris, où son roman rencontre beaucoup de succès. C'est également le cas du vrai roman Sex and the City. Et on peut se dire que si la série avait continué, s'il y avait une saison 7, probablement que Carrie serait revenue de Paris et aurait écrit Quatre blondes, elle aussi, un roman. Et donc, c'est tout ça qui est assez intéressant dans Sex and the City, c'est de voir qu'au départ d'une série féministe, c'est aussi une série qui nous raconte des choses sur le milieu et l'endroit dans lequel elle se développe.
Non ! Si, je vous jure que j'étais sur tout son visage.
Non ! Si ! Oh, on peut dire que tu t'aimes toi-même.
Je préfère être bonne copine avec moi-même.
Vous savez, quand j'étais lesbienne...
Je savais qu'elle allait en parler.
Je pouvais me passer de maquillage, j'avais toujours du brillant à lèvres.
Je te trouve bien silencieuse.
Qu'est-ce que tu veux que je vous dise ? Cet homme a tout simplement de mauvaises manières. Garde une boîte de mouchoirs sur ta table de chevet et pendant qu'il te caressera d'une main, il n'aura qu'à attraper un mouchoir de l'autre pour s'essuyer discrètement le visage.
Les règles du Minoupoli d'Emily Post.
Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas parlé tout simplement ?
C'est assez difficile de critiquer quelqu'un quand on sait que la personne se jette sur la nourriture dès qu'on la critique.
Miranda sort avec un goinfre qui veut se goinfrer d'elle.
Et quand il est réapparu à la surface, il y avait tellement de fierté sur son visage.
Oh oui, ils sont toujours tellement fiers, comme s'ils remportaient une guerre. Et ils attendent tous le baiser donné au héros.
Pas avant qu'il se soit essuyé et rafraîchi l'âme. C'est une situation assez bizarre. En fait, je crois que je serais vexée si après lui avoir fait une gâterie, un gars refusait de m'embrasser. Samantha, est-ce que tu embrasses après avoir fait une pipe ?
Non, elle se contente de signer le reçu de livraison et renvoie le mec à ses affaires.
Mais enfin, de quoi vous parlez ?
Apparemment, Carrie a un problème avec le fait qu'elle m'a surprise en train de sucer le coursier qui me livre au bureau.
Oh ! Eh, je vous fais remarquer que c'est elle qui dit ça. J'ai jamais dit que ça me posait un problème, moi.
Oh, je t'en prie, tu es entrée. Quand tu as vu ça, tu t'es enfuie en courant.
Et je devais faire quoi ? M'asseoir dans un coin et feuilleter un magazine ?
Et où l'as-tu surprise en train de sucer le mec des livraisons ? Dans la rue ?
Non, oh, mais bien sûr que non ! C'était dans l'intimité de mon bureau. Et ce n'était pas un vulgaire coursier de passage, pas du tout. C'était mon coursier que je connais depuis longtemps.
Ton coursier que tu connais depuis longtemps ?
Oui.
Vraiment ? Quel est son nom ?
Joe, les mardis et les jeudis.
Oh, Samantha, mais quel est le problème ? On rit tout le temps de ce genre de choses. Oh, Samantha !
Tout va bien. Bon, dépêchons-nous, Carrie, on va être en retard chez le styliste.
On l'a dit au début, Sex and the City débute comme un conte de fées. Un conte de fées, d'habitude, il y a un narrateur. Est-ce que c'est le cas ici ?
Eh ben oui, parce que tout récit nous est raconté par quelqu'un. C'est ce que les théoriciens du cinéma disent, en tout cas. C'est ce qu'on appelle, en joli mot, l'énonciation. Mais bon, on va laisser ça de côté, peut-être. Ça paraît peut-être moins évident au cinéma ou en télévision où les choses ont l'air de se raconter par elles-mêmes, et c'est évident. Mais pourtant, les théoriciens du cinéma nous disent non, il y a toujours un méga narrateur qui prend les choses en main. C'est vrai que le cinéma et la télévision se sont ingéniés à le rendre invisible. Les textes classiques, surtout donc le cinéma classique ou la télévision classique, préfèrent qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le spectateur et l'histoire qu'on nous raconte et les héros qu'on voit à l'image. Parce que peut-être c'est plus facile à regarder, parce que peut-être on a aussi l'impression d'être plus facile d'entrer plus facilement dans la fiction, je n'en sais rien. Et ceci demande d'ailleurs une acceptation de la part du téléspectateur. Jamais un téléspectateur ne va se dire « Tiens, c'est bizarre qu'il y ait un flou, normalement ça ne doit pas arriver dans la vie normale quand on voit les gens. » Donc il y a une acceptation du procédé, si tu veux, qui se met en place. Mais le méga narrateur n'est pas toujours le seul à raconter une histoire. Les personnages sont là, les personnages à la télévision font comme s'ils étaient des humains normaux, donc ils font toute action qu'un être humain fait dans ses activités quotidiennes, y compris de parler. Ça doit être à peu près ce qu'on fait le plus sur une journée. Dans ce cas-ci, c'est Carrie, la narratrice. Et le procédé est d'ailleurs plus que visible, parce que si vous vous souvenez bien, dans les premiers épisodes, elle regarde directement la caméra pour nous donner des éléments sur les gens qu'elle rencontre, sur ses impressions, etc.
Ça ressemble un peu à l'émission Confessions Intimes, hein, qui est diffusée sur TF1. Au début, on se dit, tiens, elle vient nous parler, d'accord.
C'est un peu ça, effectivement. Puis en plus, les épisodes sont toujours tournés autour d'une question. C'est le sujet qu'elle choisit pour sa chronique de la semaine. Et ce thème est généralement inspiré de ce qu'elle ou de ce que ses amis sont en train de vivre. Et en voix off, elle nous écrit les évolutions de son écriture. Donc finalement, on suit l'écriture de sa chronique hebdomadaire.
On la voit d'ailleurs régulièrement taper son texte.
En effet, on la voit, et donc ça rend encore plus visible le fait qu'elle nous raconte l'histoire.
Et généralement, si quand elle le tape, c'est toujours en rapport avec ce qui s'est passé ou ce qui va se dérouler.
Voilà. Quelque part, on peut dire aussi que c'est la démarche journalistique qui est mise en place. Parce que non seulement on voit l'écriture, mais on voit ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est surtout dans la première saison, où on voyait des gens qui répondaient à des interviews, ou qui faisaient comme s'ils répondaient à une interview. Alors ça pouvait être les quatre héroïnes les plus importantes, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas du tout, et qui avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom inscrit et les fonctions, exactement comme dans le journal télévisé. Et donc, eux répondaient face caméra. Et finalement, c'est leur avis qui lui permettait de construire sa chronique. Donc on a vraiment l'utilisation de la manière journalistique d'écrire un article, si tu veux.
Ça va peu à peu disparaître au fur et à mesure.
Ça va peu à peu disparaître, mais par contre, ce qui ne va pas disparaître, c'est la voix off et les plans sur l'ordinateur. Donc, on quitte ce procédé qui est finalement très intrusif. Quand un personnage de fiction vous regarde face caméra, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je suis un peu dérangée. C'est vraiment comme si ça coupait la fiction qui se déroule en face de moi. Donc, probablement qu'ils vont laisser tomber. Il faut dire qu'aussi, au début, ils avaient l'air de chercher un peu la manière de faire, que dans certains épisodes, elle faisait des facecam, dans d'autres pas, il y avait beaucoup d'interviews, puis plus d'interviews, puis ça revient de temps en temps dans les épisodes qui suivent, dans les saisons qui suivent. Il arrive de temps en temps qu'on ait une interview ou qu'on ait un face caméra. Cette voix off, finalement, elle est aussi très importante. C'est pas la seule fois qu'on a une voix off dans une série télé. On a même une autre série adaptée d'un roman avec une voix off, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Mais là, Laura Ingalls est présente au début et à la fin de l'épisode, ou même peut-être qu'à la fin, je me souviens plus. On a quelque chose de totalement différent ici dans Sex and the City, où un peu comme dans Code Quantum, la voix off est omniprésente au sein des épisodes. Encore plus même que dans Code Quantum, parce que non seulement elle nous livre les réflexions de Carrie, mais nous livre aussi parfois des futurs développements. C'est le cas par exemple quand Steve et Miranda sortent ensemble et nous dit trois semaines après, ils étaient de nouveau ensemble, etc. Cette voix finalement nous fait totalement avancer dans l'histoire et permet de gagner du temps pour l'humour à mon avis et les discussions et les choses comme ça. Et c'est selon moi un grand intérêt de la série parce que Darren Star non seulement a exploré le côté femme, le côté New York, a cassé des tabous, faut bien le dire, mais en plus il a fait des essais de procédés narratifs et ça c'est très intéressant.
En automne, les New Yorkais vivent chaque belle journée comme si c'était la dernière. Je reprendrai volontiers une autre si tu en fais autant.
T'as une mauvaise influence.
Et attends.
Tu m'avais dit de te retrouver au métro.
Mais j'étais dans le métro. Mais j'étais au pied des escaliers.
Quoi ? J'étais dans le métro ? C'est fou, moi j'étais au pied des escaliers.
De toute façon, tu n'as aucun sens de l'orientation.
On sera comme eux dans 30 ans.
Ah pitié, je t'interdis de dire ça.
Attends, je plaisantais, nous on sera jamais comme ces gens.
On a déjà été comme eux, tu ne te souviens pas ?
Oui, c'est vrai, mais c'était il y a très longtemps.
D'accord, alors dans l'avenir, je refuse de devenir comme ça.
C'est pas la peine de t'inquiéter, tu ne deviendras pas comme ces personnes.
C'est entendu, tu as raison.
Ouais.
Il y a autre chose que tu ne veux pas ?
Ouais. Je veux pas que tu paies pour ces bières. Je te parle sérieusement ? À toi, c'est ton tour.
D'accord. Je ne veux pas devenir comme ta mère.
C'est une bonne nouvelle. Je ne veux plus me laisser aller comme je le faisais avant.
Je ne veux plus être d'humeur changeante.
Ouais.
C'est amusant.
Je ne veux plus te perdre à nouveau. Même si j'ai fait quelques boulettes la première fois, aujourd'hui, ce qui est important, c'est nous deux.
Je n'ai aucune envie de te perdre non plus. Dis, tu veux bien m'épouser ?
Est-ce que t'es sérieuse, là ?
Oui, très. Tu es d'accord ?
Ouais, grave.
Certains couples ont besoin de dire leur « je ne veux pas » avant de pouvoir imaginer de prononcer leur « je le veux ».
On l'a dit, Sex and the City est une série féminine et féministe. Est-ce que c'est la première ?
C'est pas la première, mais c'est vrai que c'est probablement celle qui fait le plus grand pas en avant.
Et qui s'est démarquée le plus.
Oui. Alors c'est vrai que la télévision date des années 50. Et que ça fait donc logiquement une petite dizaine de personnages féminins intéressants. Dans les années 80, il y a des études qui ont démontré qu'il y avait une héroïne pour 5 à 6 personnages masculins. Et que donc, quantitativement, les femmes étaient sous-représentées, mais qu'aussi, qualitativement, les hommes portaient l'action, étaient d'un niveau socio-professionnel plus élevé, avaient plus de responsabilités que les femmes, qui étaient traditionnellement au foyer ou représentées dans un nombre limité de professions dites féminines, institutrices par exemple. 20 ans plus tard, l'UNESCO et en 2002 le Conseil de l'Europe ont sorti des études qui ont montré que la situation n'avait absolument pas avancé ou quasiment pas avancé en 20 ans. Personnellement, des comptages que j'ai faits pour une conférence m'ont permis de démontrer qu'il y avait sur 50 ans de télévision 13% d'héroïnes contre 52% de héros et 34% de héros mixtes, donc des couples par exemple ou des duos ou des groupes où il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a plus d'infos d'ailleurs là-dessus sur le site parce que je ne vais pas m'étaler ici dans les chiffres. À mon avis, ce serait un peu barbant à écouter pour vous. Alors on le voit, les héroïnes reviennent de loin. Et si la situation s'améliore évidemment sur les années, on est loin d'un traitement d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais seulement les chiffres, à mon avis, révèlent pas tout parce que parfois un héros secondaire comme Mona dans Madame est servie peut être plus intéressant et plus progressiste que l'héroïne en tant que telle. Et bon, c'est vrai que quand on regarde toute cette évolution, depuis 50 ans, les héroïnes de Sex and the City paraissent même des icônes féministes, évidemment. Il y a eu plusieurs tranches, plusieurs étapes dans les personnages féminins au cours de ces 50 dernières années. La première étape, c'était la femme traditionnelle, surtout dans les années 50 et 60, où la femme au foyer prédomine. C'est par exemple l'extravagante Lucie, qui est donc une femme au foyer, mais qui tente de le fuir, mais qui n'y arrive jamais. C'est un peu le schéma récurrent. On a aussi, par exemple, des femmes comme Emma Peel qui brisent un peu le carcan, mais sans tout à fait réussir, puisque finalement, ce sont plus des poupées sexy qu'autre chose. En tout cas, c'est comme ça qu'on les considère. La deuxième phase, c'est celle de l'émancipation, puisque les Noirs américains ont commencé le combat, les femmes vont continuer dans le même genre. Dans les années 70, on trouve des héroïnes plus libérées, comme par exemple le Mary Tyler Moore Show, où la femme, cette fois-ci, travaille et est célibataire, ou comme dans Maud, qui sera adaptée en Maggie en France, qui a la quarantaine et qui brise plein de tabous. Elle se fait faire un lifting, elle a un avortement, son mari est impuissant, etc., etc. Elle fait de la politique, je pense. On a aussi, durant cette décennie, les drôles de dames qui sont les premières femmes à se battre à la télévision dans une série d'actions. De nouveau, parfois, les drôles de dames sont plus des icônes glamour qu'autre chose, donc c'est pas
plus
toujours
des
évident.
En quelque voilà. Sorte.
Alors on avance, lentement mais sûrement. Dans les années 80, qui sont les années de la médiocrité des séries télé, faut quand même bien le dire, en général en tout cas, faut pas tout mettre dans le même panier, on a une chose très intéressante, c'est les rôles qui s'inversent dans certaines séries, du moins dans certaines séries. On a par exemple, dans Madame est servie, un homme au foyer, contrairement à ce qu'on avait avant, et une femme publiciste. Donc elle n'est pas infirmière, elle n'est pas institutrice, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant dans cette série, c'est Mona, par exemple, qui est la quadragénaire de service, mais qui a une vie sexuelle débridée, alors que sa fille est plutôt quelqu'un de prude. On a aussi la fête à la maison, de nouveau, on a trois hommes à la maison, trois hommes qui doivent élever leur petite fille, apprendre à élever une petite fille, l'adolescence, etc. C'est pas toujours évident, mais aussi des hommes qui souffrent parfois de leur statut d'homme au foyer. Donc on retrouve ce qu'on avait avant dans la bouche des filles, mais cette fois-ci dans la bouche des hommes, et c'est finalement assez intéressant. Dans les années 90, on se rend compte que les femmes sont loin d'être gentilles, maternelles, polies et toujours dignes, et on se rend compte qu'elles peuvent être totalement bêtes, méchantes et laides. Et c'est le cas, par exemple, d'Afab. Puisqu'on a là une femme, par exemple Edina, qui n'a absolument aucun instinct maternel. Elles boivent, elles fument dès 8h du matin, elles sont dépravées, elles sont totalement ridicules. Enfin, ce ne sont pas nécessairement des femmes avec qui on a envie de s'identifier. Et finalement, on en arrive dans cette décennie et à l'an 2000 maintenant, à des femmes dont on pourrait dire qu'elles paraissent un peu plus justes. La première d'entre elles, c'était Ally McBeal, qui avait été créée par un homme, mais qui semblait dépeindre assez bien les désirs des femmes, leurs envies vis-à-vis du monde professionnel, etc.
En tout cas, dans ses premières saisons.
Voilà, parce que ceci dit, Ally McBeal redevient assez vite la femme traditionnelle qui attend le prince charmant. On est bien d'accord. C'est à ce moment-là qu'arrive Sex and the City, qui va plus loin qu'Ally McBeal, qui, elle, ne s'embarrasse d'aucun tabou sexuel, racial ou autre, et qui montre finalement des femmes avec quatre facettes très extrêmes, mais qui ne les enferme pas non plus dans un personnage. La télévision a successivement présenté ces femmes, donc traditionnelles, des femmes plus macho que les hommes, par exemple, dans Suspect numéro 1, Police District, des femmes égales aux hommes, des spécificités féminines, comme dans Julie Lescaut, ou des anti-femmes. Mais elles les ont aussi maintenant tout en même temps. On a par exemple des femmes au foyer encore à l'heure actuelle, comme dans C'est à la maison par exemple. Mais on a aussi des femmes comme dans Sex and the City, et des femmes un peu plus dures, Suspect numéro 1 par exemple est souvent rediffusé, etc. Ce qui est intéressant dans Sex and the City, C'est qu'on pourrait se dire que quelque part, et je l'ai dit en commençant cette émission, on a des types de femmes, Charlotte, qui est traditionnelle, Samantha, qui est dépravée, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que Samantha peut parfois aussi être très prude. Quand on la voyait face à Richard, sa manière de le regarder, de le prendre pour le prince charmant tout à coup, ça faisait très fort penser à Charlotte quand même. Et Charlotte aussi peut avoir un côté très très macho, et ça lui arrive de faire des doubles rendez-vous sur une soirée par exemple. Et donc finalement, on se retrouve avec ces femmes qui ne sont absolument pas catégorisables, qui sont, c'est vrai, plutôt dans un pôle qu'un autre, mais qui au sein de ce pôle ont des nuances propres à elles, qui évoluent aussi des saisons, et puis finalement, on peut toutes un petit peu se retrouver dans chacune d'entre elles, ou dans toutes en même temps, au point que parfois, on peut même aussi ne pas les aimer du tout. Et c'est ça qui est intéressant dans ces femmes, c'est qu'elles ne sont jamais ni blanches ni noires, elles sont grises, mais elles sont toutes les teintes de gris. C'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce une série féministe ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une série qui parle bien des femmes, c'est un fait, d'une certaine tranche des femmes aussi, parce que c'est vrai que ce sont des filles urbaines, célibataires, qui vivent dans un milieu riche. Pas sûr et certain que tout le monde puisse s'y retrouver, mais en tout cas, tout le monde peut peut-être se retrouver dans leur manière de se voir vis-à-vis du travail, vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des autres femmes.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.